Notre troisième partie, donc, consacrée à l'interview de Guillaume Heras. Alors, on va commencer, on va essayer de pas trop mélanger les choses, parce que vous avez plusieurs casquettes, Guillaume Heras. Vous êtes tout d'abord maire de Saint-Marcel, puisque ça commence toujours par là, même quand on s'occupe de l'agglo ensuite. Alors, cette commune dont vous êtes maire depuis 2012, c'est ça? Donc, vous avez fait déjà plus d'un mandat.
Oui, oui.
Vous n'avez pas caché que vous vous représenteriez, donc on passe rapidement
non.
là-dessus. Bon, votre commune fait partie, elle, Saint-Marcel, sur Aude, comme son nom l'indique. Elle est parfois vulnérable lorsqu'il y a des pépins climatiques. Cette fois-ci, vous vous en êtes tiré relativement bien.
Oui, on s'en est bien tiré. On a été très informé par des organismes comme Prédict, le SMAR. Au niveau départemental qui veillait, et puis voilà, maire heureux parce que on n'a pas reproduit les événements de l'année dernière.
Bon,
soulagé,
oui,
mais
soulagé,
aussi
mais
solidaire avec le Biterrois qui cette fois-ci n'a pas eu autant de chance.
Voilà, à chaque fois le sort s'acharne sur une zone. Là, cette fois-ci, c'était le Biterrois. L'année d'avant, c'était la Haute-Vallée, enfin, ou la Montagne Noire, etc.
Pour les mêmes raisons climatiques,
pour les mêmes anticyclones,
des affrontements d'air chaud et d'air froid qui font.
À propos de maire et de pouvoir de maire, dont dans cette émission, on le souligne souvent, ses pouvoirs sont partis en grande partie justement à l'agglomération. Récemment, lors d'un conflit, alors du personnel de la maternité, de la polyclinique qui se battait pour poursuivre son activité menacée de fermeture, ils ont contacté, nous ont-ils dit, de nombreux maires de la Narbonnaise et ils nous ont dit qu'il y en a très peu qui nous ont répondu et soutenu, parmi lesquels le maire de Saint-Marcel. Alors, quel est votre sentiment sur un tel sujet et quel est votre pouvoir de maire ?
Le pouvoir de maire, il est de porter une parole, hein, de soutenir déjà, de conseiller quand on pense qu'un dossier est complexe et...
Et je
pense qu'il implique le territoire et qu'il appauvrit le territoire. Enfin,
oui,
voilà, quand on parle de...
C'est la vision politique au bon sens du terme.
C'est la vision politique au bon sens du terme avec 30 emplois qu'on détruit. Donc déjà,
un service sur
lequel moi je me pose des questions avec elle. Où je me dis comment... de deux équipements, nous allons passer à un. Et quel moyen va donner l'ARS à l'hôpital pour traiter toutes les naissances sur une seule maternité? Alors, l'hôpital assure qu'il va pouvoir les traiter, je l'espère. Je suis convaincu, moi, de la qualité de notre hôpital à Narbonne. Mais ce dont je suis moins convaincu aujourd'hui, et je n'ai pas les réponses,
c'est la capacité d'accueil.
Et quels vont être les moyens de l'ARS et de l'hôpital mis... voilà, parce que une maternité... localement, c'est quand même quand une, enfin moi j'ai deux enfants, quand mon épouse on a eu le dernier et qu'il a fallu partir en urgence à la maternité,
Me
voyais mal aller à Béziers, à Carcassonne ou à Perpignan. Et puis il y a d'autres sujets dont on n'a pas parlé non plus, c'est les assistances psychologiques, les IVG, tout ce qui est traité à ce niveau là voilà. Comment ça va être pris et comment ces 30 emplois, parce que ces femmes, ces hommes, mais surtout des femmes, ces sages femmes. Voilà, mais à Noël,
qu'est-ce qu'elles vont
à Noël,
devenir, oui.
Ce qu'elles aiment le plus faire, ben à Noël, elles n'auront plus d'emploi, quoi.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on leur propose ?
D'où votre intervention et votre soutien que vous leur aviez apporté à ce moment-là.
Oui.
Alors, je m'adresse également encore au maire de Saint-Marcel. Une étude récente diffusée dans la presse écrite locale sur alors ce qu'on appelle, je cite le terme technocratique parce que je l'adore, l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la construction, on construit des maisons. Et il apparaissait dans cette étude, j'en fus surpris, que la commune ou une des communes les plus bétonnées entre guillemets de l'Aude, c'était Saint-Marcel, la vôtre, Guillaume Heras.
Oui. Bon, moi, je crois, et d'ailleurs, Michel le disait tout à l'heure, qu'il y a des chiffres qu'il faut prendre avec mesure et les replacer dans le contexte. Je suis aussi convaincu que ces études sont excellentes parce qu'elles permettent de réfléchir.
Elles stimulent peut-être aussi.
Elles amènent la réflexion. Alors, on n'a pas besoin d'études pour être stimulé, ni être piqué, parce que quand on a travaillé pendant des années sur un plan local d'urbanisme, sur de la planification, on est assez serein sur la réception de ces chiffres. Moi, ce que j'ai répondu au journaliste qui m'a donné un droit de réponse, c'est que effectivement, il fallait peut-être considérer ces chiffres sur une période beaucoup plus longue. Et puis, ces ratios, il fallait aussi les recaser dans son contexte. Alors, pourquoi période plus longue? C'est parce que Saint-Marcel a voté son plan local d'urbanisme et l'a mis en application en 2007. Et partant de là, on a rempli des dents creuses dans le village. Et donc, on a eu effectivement une urbanisation soutenue pendant cette période-là. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est que nous avons fait 40 hectares de stations photovoltaïques pour justement des énergies renouvelables et qu'elles sont prises en compte dans cette bétonisation. Donc vous voyez, il faut aller à l'intérieur.
Elles sont classées, à votre avis, du mauvais côté.
Voilà. Et donc, si on étire, la période de l'étude, ou si on la reporte en termes de nombre d'hectares et pas juste en pourcentage de superficie, comparé à de grandes villes ou de grandes urbanisations, on ne peut pas dire que Saint-Marcel est le champion du bétonnage, je veux dire, en nombre d'hectares. Voilà. Alors, il y a un phénomène d'une période relativement courte, et je vais même vous dire, depuis la fin de cette période, il n'y a pas eu d'urbanisation supplémentaire, et aujourd'hui, nous avons consommé l'espace qui nous était imparti pendant les 15 ans de révision du PLU. Donc il n'y a plus d'urbanisation prévue sur les 5-10 ans à venir sur Saint-Marcel. D'ailleurs, il faudra que la commune révise son plan local d'urbanisme et donc s'insère dans un schéma de cohérence territoriale. Il y a toujours cet échange entre l'agglomération et les communes pour que dans ce schéma de cohérence territoriale, ils fixent des axes. Il y a notamment aussi un axe très ambitieux de produire de l'habitat nouveau dans 50% de l'ancien, voilà, qui ne va pas aussi grignoter sur les surfaces agricoles.
C'est-à-dire voilà. Recycler les vieilles maisons des villages. Donc,
recycler les vieilles maisons qui ne sont soit pas habitées, soit plus habitables, ou qui peuvent être densifiées parce qu'avant on consommait énormément d'espace. Voilà. Donc oui, ces chiffres sont bons. Attention, comment
à l'interprétation qu'on en fait.
Voilà, tout à fait.
Oui, c'est comme pour le ratio la pollution et la Chine tout à l'heure.
Tout à fait ça.
Une remarque, Michel.
Oui, je voudrais venir sur un point qui est souvent en fait avancé par les par les élus, qui consiste à dire à la matière habitat, urbanisation, etc. Les projections nous amènent à considérer que nous allons recevoir N% en fait de nouveaux arrivants.
Encore un chiffre.
Donc, je vais créer en fait une offre de logement pour recevoir ces N% qui en auraient pu. Mais enfin, quand même. Pour justifier effectivement leur artificialisation des sols et donc leur extension urbaine. Mais enfin, j'ai tendance à leur dire, mais c'est pas parce qu'on attend statistiquement N% d'augmentation d'une population que vous êtes dans l'obligation de créer des logements pour les recevoir, en fait.
Oui, en fait.
Puisqu'à la matière, on le sait, mais c'est l'offre qui crée la demande. Si vous créez, si effectivement il y a une offre disponible de logements ou d'appartements, forcément, les gens vont venir accueillir. Ouais, sauf évidemment pour les gens qui sont en interne déjà, en fait, à peu près en interne, et qui sont à la recherche d'appartements correspondant à une
voilà,
gamme.
Bon, alors, sûr. Réponse.
Il y a aussi une notion de coût de l'habitat qui est important dans notre société. Et si on n'a pas une offre satisfaisante, les coûts de l'habitat montent et la vision de notre société change.
Oui, justement, donc, là encore, l'offre et la demande.
Mais encore une fois, on est dans une vision, et moi c'est ce que je prône, mesurer. C'est-à-dire que il faut du développement économique, il faut de l'habitat de qualité, et il faut aussi créer les conditions d'une mixité sociale. Et donc c'est tout le savant équilibre d'un territoire qui vit bien, qui se développe, mais qui ne bétonne pas et qui respecte son environnement.
Alors, première mi-temps, en quelque sorte, nous avons, non pas épuisé, mais largement évoqué le maire, la fonction du maire. Vous êtes également, Guillaume Heras, un des vice-présidents de l'Aglo, du Grand Narbonne. Alors ça, ça nous occupe aussi, parce que on sait maintenant que la prochaine élection municipale débouchera forcément, là encore, sur une élection du président du Grand Narbonne. Vous avez récemment, alors là je cite le journal, Grand Narbonne, le coup de gueule de Guillaume Heras, c'est pas celui de Michel, mais c'est celui de Guillaume cette fois-ci, il y a quelques mois, à propos d'une candidature survenue, celle de M. Darrot, qui va se présenter aux élections municipales de Narbonne. Et pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a motivé alors je cite de nouveau ce coup de gueule?
Oui, c'est
on a besoin pas à Saint-Marcel.
Non, bien sûr, mais quand il a parlé de l'agglomération, il a parlé à tous les maires de l'agglomération, et puis l'agglomération est un espace de dialogue, est un espace de travail en commun. On a parlé de projet de territoire, donc c'est pour bâtir un projet de territoire. Je suis bien placé parce que justement j'ai porté ce dossier à l'agglomération qui a été voté à l'unanimité, et donc le coup de gueule il était sur voilà, on n'a pas besoin de diviseurs, on a besoin de rassemblement, on a besoin de se parler. Ce sont, je viens d'en parler, le schéma de cohérence territoriale, ce sont des dossiers qui sont en dehors de politique politicienne, qui sont basés sur une vision de territoire, qui sont basés sur voilà, vraiment moi les habitants n'en ont rien à faire sur les querelles de clochers à l'agglomération. C'est pas ça, quoi. Quand on parle d'eau et d'assainissement, quand on parle d'habitat, quand on parle de politique touristique, voilà, on n'a pas une étiquette dedans, et puis il faut travailler ensemble, parce que si on ne le fait pas, je veux dire, les trains passent, hein, et on ne les voit pas. Donc voilà pourquoi le coup de gueule, c'était contre les diviseurs.
Voilà. Mais une élection reste toujours politique. D'ailleurs, on sait que la précédente l'a été terriblement. Elle a débouché sur une situation conflictuelle que l'on a connue. Alors là, en prenant parti publiquement Guillaume Heras, et en étant un des rares, sinon le seul, à le faire, est-ce que certains vont se dire « Mais il a une stratégie finalement très politique. Il se pose comme un prochain recours », en sachant que le président Jacques Bascou a, lui, dit clairement qu'il ne serait pas partant.
Oui, c'est une remarque qu'on m'a fait après l'article, et j'ai sincèrement réagi sur cet article, sur une vision de valeurs qui ne me conviennent pas. Quant à votre question, est-ce que je serai candidat à la présidence de l'agglomération, elle se pose pas maintenant, on n'y répond pas maintenant. On a encore 6 mois de travail sur nos municipales, dans nos villages, à l'agglomération, pour finaliser les projets. Enfin, je veux dire, c'est sur ça qu'on est attendu. Et en plus, il y a un mode de scrutin qui est assez particulier sur l'agglomération, c'est-à-dire qu'on est fléché dans nos villages, dans nos municipales, et donc c'est la première étape à laquelle je pense qu'il faut pas déroger, et sur laquelle nous, on a commencé à travailler sur le village, parce qu'il faut se projeter sur l'avenir. Donc on va passer ce mode de scrutin, les conseillers communautaires vont être désignés, et puis il sera venu le temps que les maires se parlent ensemble, comme un peu un concile, et la lumière blanche sortira. Mais de vous dire, est-ce que je me pose la question ? Oui, je me pose la question. Est-ce que j'y ai répondu ? Non, j'y ai pas répondu, et j'y répondrai bien plus tard. Il y a beaucoup de personnes qui seront légitimes. Pour l'instant, on ne l'est pas, parce qu'il y a encore 6 mois de travail, et il y a encore des municipales à passer.
Voilà. Bon, ben voilà qui est clair, en tout cas, de votre point de vue, Guillaume Heras. Alors, je rappelle justement que vous êtes quand même un des vice-présidents du Grand Narbonne, et en plus, vous occupez le secteur qui, je crois, le plus gros budget, l'environnement, c'est bien ça ?
Le plus gros budget de fonctionnement,
de fonctionnement,
ça représente hein. 26 millions d'euros en termes de fonctionnement, le budget environnement. Mais il y a il faut pas, en mettant ces chiffres en avant, préjuger que les autres ne seraient pas importants.
Comme, c'est pas ce que j'ai dit.
Comme l'eau et l'assainissement, qui produit beaucoup d'investissements. On a fait une station d'épuration par an, hein, ce qui est aussi pour l'accueil des nouveaux habitants.
Des futurs, des néo-Saint-Marcellois.
Et de l'habitat également, avec beaucoup aussi de soutien à des programmes immobiliers importants, et notamment sur la politique de la ville avec le quartier des
Peupliers. Voilà. Mais l'environnement, donc aujourd'hui, donc c'est quand même un gros morceau, ça c'est indiscutable, en fonctionnement. C'est la collecte des déchets, essentiellement. Mais c'est aussi une politique, alors, qui a été mise en place tout au long de ces dernières années, de tri sélectif, avec l'Écopôle Suez, c'est bien,
oui,
ça.
L'Écopôle, oui. L'Écopôle Lambert.
Oui, notamment tout ça tournant autour de la décharge Lambert. Il y a une véritable politique quand même qui s'est mise en place et que vous avez drivé, si je puis dire, d'une certaine façon.
Alors déjà, c'est une continuité du travail qu'avait lancé Marie Batte sur le précédent mandat. C'est effectivement pouvoir poser la réflexion sur quels sont les volumes de déchets enfouis et comment on détourne l'enfouissement, comment on donne une deuxième valeur à la matière. Donc déjà, on produit trop de déchets. On parlait de la production de carbone, on produit trop de déchets, il y a du suremballage, il y a de la surconsommation. Donc, quelle est cette réflexion-là? Il y a une réflexion au niveau national, bien sûr, elle n'est pas sur le local. Mais comment aussi on facilite le geste de tri? Comment on facilite la possibilité de détourner de l'enfouissement? Donc, en clair, comment on ne met pas que dans un sac poubelle et comment on ne va pas le mettre dans un trou à la mer? Et c'est vrai que pendant 6 ans, on s'est attardé à faciliter le geste de tri, à communiquer, mais aussi prévoir tout l'outil industriel derrière qui permettait de donner une deuxième vie aux déchets. Donc voilà, en travaillant avec l'ouest du département pour avoir une usine de tri sélectif qui puisse prendre tous les déchets plastiques du département, en ayant chez nous une usine de combustible solide de récupération, c'est-à-dire qui puisse traiter tous les encombrants qu'on amène en déchetterie et les transformer en combustible pour un circuit court, comme par exemple la brûlerie de la Farge pour créer du ciment, et puis le verre aussi. Alors, avec toutes ces actions, et il faut toujours se mettre à la place des gens qui vont finalement faire le geste le plus important, le geste de tri. Comment on les aide dans ce geste de tri? Donc on a supprimé des containers, on s'est mis au plus près. Alors tout n'est pas parfait, hein. Même si on a 18 déchetteries sur le territoire, même si on a étendu, il y a toujours des gens qui ne trient pas, des gens qui ne comprennent pas l'impact sur la planète. Et pourtant, on a des phénomènes d'intempéries, on a un climat qui se dérègle. Donc voilà, le tout, c'est d'arriver avec pédagogie à insuffler ça, à en donner l'importance, et puis aussi comprendre que toute cette gestion des déchets aujourd'hui, c'est une économie. C'est une économie importante. D'avoir été à l'impulsion, on se rend compte qu'un industriel comme Suez vient implanter son laboratoire sur les biodéchets, son laboratoire mondial, et qu'il y a 14 chercheurs qui arrivent à Narbonne.
Voilà, c'est ça. Il y a département recherche qui s'annonce.
Exactement. Voilà, sur les biodéchets. Et puis qu'on a un IUT, voilà, que Tristan Lamy a été aussi présent
dans cette branche.
Dans cette branche-là. Et puis, on a d'autres entreprises qui sont moteurs. Et puis, voilà, toute cette croissance verte, finalement, qu'on a mis au plus haut dans notre projet de territoire, c'est un projet de société, quoi. C'est un projet d'économie, parce que moi, en tant que maire et vice-président de l'Aglo, je reçois énormément de gens pour de l'emploi, pour du logement. Et donc, les vraies attentes de la population, elles sont là, quoi. Voilà, comment on subvient à nos besoins, comment on travaille, comment on se loge.
Une question toute simple. Les conteneurs enterrés, il y en a de plus en plus et vous en inaugurez souvent. Quel intérêt de les avoir enterrés? Avantages, inconvénients?
Alors, il y a un intérêt urbain, bien sûr.
Oui, de propreté.
Évident, de propreté, d'urbanisme, parce que c'est important d'être dans un environnement intéressant aussi, moins d'odeur. Il y a un intérêt économique, parce que il y a moins de collecte, moins de camions sur la route.
Il y a moins de collecte,
mais la collecte. Il y a moins de collecte parce qu'elle est différente. Il y a de la collecte, mais il y a moins de collecte. C'est-à-dire que on ne les collecte pas 3, 4, 5 fois par semaine, comme les conteneurs verts.
Elle est plus espacée.
Elle est plus espacée. Une cuve représente la capacité de 6 conteneurs. Voilà. Et les opérateurs aussi manipulent moins, donc sont moins en danger sur les problèmes professionnels. Donc c'est une grue qui lave le camion, et voilà. Et donc on peut les coûts de la collecte pour le budget environnement, c'est 60%. Les traitements des déchets, c'est 40%. Voilà. Et donc, ces conteneurs enterrés sont très positifs pour le territoire, très positifs.
D'accord. Donc, un tout dernier mot, on va conclure là-dessus, de Guillaume Heras. Donc, quand vous vous retournez au bout de ces cinq années et demie passées, vous avez l'impression que cette agglomération du Grand Narbonne s'est bien cristallisée, a évolué véritablement. Vous qui êtes jeune, qui avez quand même encore un regard lointain sur l'avenir.
L'agglomération a un déficit d'image. Parce que
justement, oui.
Quand il y a des employés qui collectent les ordures ménagères à 5h du matin, on ne le voit pas. Et pourtant, qu'il pleuve, qu'il vente, ils y sont. Quand on a des tuyaux pour l'assainissement ou des stations d'épuration qui marchent, on ne le voit pas. Et parce qu'on ne le voit pas, on n'a pas l'impression que c'est fait. Or, quand ça dysfonctionne, on le voit.
C'est là on le voit ou on
et,
le sent.
Et ça arrive très peu souvent. Le risque industriel zéro n'existe pas. Et donc, à l'agglomération, vous avez... des élus, et je peux vous dire que ce qui rassemble les 77 conseillers communautaires, c'est la passion du territoire. On a des idées politiques et des idées sur des dossiers qui sont divergentes parfois, mais ce qui nous rassemble tous, et vous êtes élus aussi, c'est la passion pour notre territoire et nos concitoyens. Et donc, effectivement, quand dans des conseils communautaires, il y a des prises de parole, il n'y a que celles-là, souvent, qui sont rappelées. Et donc, dans le journal, on ne voit que ça. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a une agglomération qui bosse. On a des fonctionnaires territoriaux qui sont exceptionnels, qui bossent beaucoup. On a sur toute l'échelle de responsabilité des agents... Je suis en charge des ressources humaines, ouais. Et si vous voulez, ça c'est une énorme satisfaction d'avoir pu travailler avec 530 agents. C'est de voir l'implication des agents, quoi. Ouais. Voilà.
Parfait. Bien, c'est là-dessus. Ouais. Merci en tout cas. C'est là-dessus qu'on va conclure, Guillaume Heras. Donc finalement.
Au personnel administratif, voilà. C'est le cas, c'est rare de la part de Denis, c'est bien de l'avoir fait.
Merci de l'avoir fait, en tout cas merci aussi d'être venu sur ce tour d'horizon de vos diverses fonctions, Guillaume Heras. Prochain élu, notre député Alain Perea, et puis bon, ben, peut-être je pourrais citer quelques listes, alors très très rapides. Nous recevrons ensuite Bertrand Malquier, Louis Privat des Grands Buffets, Alex T, président des Vignerons Audois. Puis on reviendra dans la politique, Nicolas Saint-Cluc, Didier Moulier, etc., etc. Pour ce Radio Barque 6e saison. Merci encore et à la semaine prochaine.
Merci.